L'année 2017, c'est l'année de l'anniversaire de la réforme, comme vous le savez. Et c'est pourquoi je veux vous parler encore aujourd'hui, pour une dernière fois, sur les fondements de la réforme et sur un de quatre souli. Dans une série pendant l'automne, Eric a prêché sur la sola gratia, la grâce seule, la sola scriptura, l'écriture seule, et le solus Christus, Christ seul. Il nous manque un souli à regarder, la sola fide, la foi seule. Pourtant, la découverte de Martin Luther de la foi seule était le début de la réforme. Quand Luther a étudié l'épître de Paul aux Romains, il est tombé d'abord sur le verset 17 dans le chapitre 1. Il a été écrit « En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit « Le juste vivra par la foi ». Et puis, dans le chapitre 3, verset 28, en effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Après cette découverte, Luther exclamait : Alors j'ai senti que j'étais presque né de nouveau et je suis entré dans le paradis par les portes ouvertes. Mais qu'est-ce que Luther a découvert ? Ce qu'il a résumé avec sola fide, la foi seule. Nous voulons creuser cette question ce matin. D'abord, pour comprendre cette découverte, il faut se rappeler du contexte de la vie des hommes et des femmes du XVIe siècle. Comme était leur vision du monde et leur vision de la vie ? C'était bien différent qu'aujourd'hui. Pour Luther et pour beaucoup des hommes de l'époque, une question fondamentale était « Comment je peux être juste devant Dieu ? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'accepte, pour que je puisse gagner la vie éternelle ?» Les gens de l'époque avaient peur, beaucoup de peur de la mort qui était bien présente dans leur vie quotidienne. Il y avait des guerres, les violences et les maladies, comme la peste, qui ont décimé la population. Leur vie était souvent courte, toujours en danger, et pour la majorité marquée par le manque et par la pauvreté. Ensuite, il y avait la peur de la colère de Dieu, la peur de l'enfer et des supplices infernaux. Donc la question fondamentale était comment être juste devant Dieu, comment gagner la vie éternelle, comment entrer dans le paradis. Et les réponses proposées par l'Église de l'époque étaient les rites et les exercices religieux, les confessions et les indulgences qui étaient finalement devenues un commerce. Martin Luther aussi, il a pensé longtemps que la justification devant Dieu est une qualification religieuse et morale que Dieu nous demande à atteindre par nos propres efforts. Donc une qualification religieuse et morale à atteindre par nos propres efforts. Mais en étudiant l'Épître aux Romains, Luther avait trouvé une autre réponse, la foi seule. Comme c'est écrit dans Romains 3, verset 28, l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres. C'est pourquoi il pouvait dire « Je suis entré dans le paradis par les portes ouvertes ». Mais pour nous aujourd'hui, pour les femmes et les hommes du XXIe siècle, est-ce que la sola fide de Luther, est-ce que la foi seule peut être la réponse aux grandes questions d'aujourd'hui ? Nous avons au moins une chose en commun avec les hommes du XVIe siècle, les questions sur la vie. Les gens d'aujourd'hui ne se demandent plus comment vivre une vie juste devant Dieu. Mais une des grandes questions de notre époque est comment je peux réussir ma vie? Comment je peux réussir ma vie? Dans notre société moderne, la réponse est l'homme doit être son propre garant de sa vie, basé sur ses propres efforts et ses performances. L'homme est forcé à optimiser sa vie pour trouver un sens de la vie dans ses réussites. On veut et on doit donner de plus en plus pour réussir et pour gagner la reconnaissance des autres. On veut une vie réussie pour nous et pour nos proches. Qui ne donne pas le meilleur et qui ne veut pas le meilleur pour ses enfants, pour qu'ils puissent réussir la meilleure école, la meilleure formation, la meilleure université. Tout cela pour avoir un CV optimal, pour trouver un travail et une place reconnue dans notre société. Et pour montrer aux autres les signes de l'ascension sociale, maison, voiture, vacances. Je ne veux pas être défaitiste. Si vous êtes heureux avec vos réussites, avec votre parcours et votre vie, tant mieux. Nous vivons dans une société de compétitivité qui est bien sûr différente du XVIe siècle. Mais notre mode de vie moderne crée aussi des peurs. Pas la peur de l'enfer, comme à l'époque de Luther, mais la peur de ne plus réussir, de perdre ses acquis, de descendre sur l'échelle sociale. On parle aujourd'hui aussi d'une société d'optimisation avec des vies surchargées. Je pense que pour chacun et chacune, il y a un moment dans la vie quand il faut s'avouer qu'il y a aussi des échecs, qu'on ne peut plus donner de plus en plus et que nos forces ne suffisent plus. Il y a aussi la fatigue, la maladie et les événements lourds qui font partie de notre vie. Et un jour, peut-être on doit reconnaître qu'on ne peut plus être le garant de notre vie par nos propres efforts, que nos œuvres ne peuvent pas être le fondement de notre vie. Finalement, il y a la peur de la mort, qu'on a peut-être en commun avec les hommes de toutes les époques. Mais est-ce que la réponse de Luther, la sola fide, la foi seule, peut être aussi aujourd'hui une réponse aux questions multiples de notre vie moderne? Une réponse qui pourrait nous laisser dire « Je suis entré dans le paradis par les portes ouvertes ». Dans cette deuxième partie de la prédication, nous voulons réfléchir sur la question « Qu'est-ce que c'est la foi ?» Dans la Bible et dans toute la tradition de l'Église, on trouve pour la foi deux nuances comme deux pôles différents. D'un côté, on comprend la foi comme les réalités qu'il faut reconnaître sans les mettre en question. Cette définition de la foi, on trouve déjà dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On trouve cette compréhension aussi dans les différentes confessions de foi. Par exemple, dans la confession traditionnelle de foi, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Aussi dans notre confession de foi de l'Union des Églises évangéliques libres, UEEL. Nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu béni éternellement. Il a créé le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles. Il fait l'homme à son image. Je ne veux pas remettre ces confessions en question, bien sûr non. Au contraire, il y a des moments quand il faut confesser et affirmer les fondements de notre croyance. Mais aujourd'hui, je veux focaliser nous réflexions sur notre compréhension de la foi. Si on regarde la confession de foi juive dans l'Ancien Testament, Deutéronome 6, versets 4 et 5, on trouve une autre nuance de la foi. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cette confession de foi met en avance la relation de Dieu avec nous, une relation de confiance. En effet, dans l'Ancien Testament et dans beaucoup des parties du Nouveau Testament, la foi est décrite comme la confiance en Dieu. Et quand Jésus dit à la femme cananéenne non juive, et ça c'est Matthieu 15, verset 28, « Femme, ta foi est grande. » Jésus dit « Femme, ta foi est grande. » Jésus ne parle pas des réalités invisibles qu'il faut reconnaître ou la confession de foi. Non, il parle de la confiance en lui. La femme a confiance en Jésus, donc elle croit. Pour comprendre plus de la confiance, je vous propose un petit exercice. Est-ce que vous avez confiance dans les lois de la physique? Par exemple, dans la gravitation? Oui, je pense oui, bien sûr. Je ne pense pas que quelqu'un parmi nous met en question la loi de la gravitation. J'imagine plutôt que vous faites confiance dans la loi de gravitation, que vous avez fait l'expérience, que vous restez ici sur la Terre, en tout moment, ici dans vos sièges, sur votre place, et vous n'allez pas planer dans cette salle-là. Comme ça. Donc, je pense que votre expérience dit « j'ai confiance dans la loi de gravitation ». Donc, on peut lier... une autre loi, c'est la loi de la pendule. Donc, est-ce que vous avez confiance dans notre loi, la loi de la pendule? J'ai mis une petite pendule là. Cette loi dit que la pendule... Je prends une petite tour Eiffel. Là. Donc, vous voyez, la loi de la pendule dit que la pendule n'oscille jamais plus haut que son point de départ. C'est son point de départ ici. Et je vous montre... Donc ça, après, ça descend. Hein. Donc la loi dit, c'est lié aussi à la gravitation, mais c'est un petit peu plus compliqué peut-être. Donc je ne vais pas mettre là les formules, mais la loi dit donc, juste retenir, c'est le point de départ ici. Et la loi dit, la pendule n'oscille jamais plus haut que son point de départ. Vous voyez. Maintenant, j'ai besoin de bénévoles. Donc, je pense. Oui. Très bien. Donc, on va mettre ça sur notre échelle, là, maintenant. Donc, on va mettre pas ici, là. Donc, on va faire notre pendule. Donc, la physique dit aussi, si c'est dans une petite échelle, ça marche aussi dans une grande échelle. Donc, vas-y, mettre là. Ici, un petit peu plus loin. Non, tu ne touches pas, donc je vais mettre au bout de ton recule un petit peu. Donc la loi dit, si je laisse là maintenant, ça ne va pas toucher ton nez. Tu es sûr?
Oui.
Ok. De refaire pour être... Donc, c'est aussi c'est la même chose avec la confiance et la foi. Donc, si on répète, on a fait des expériences, donc on est plus sûr. Ok, plus sûr. Merci. Donc, l'autre bénévole, donc on va continuer. Sinon, tu restes s'il n'y a pas d'autre. Très bien. Parce que maintenant, tu sais,
Notre étape pour avoir encore plus de confiance est... Ça, c'était 500 grammes. Donc, la loi dit aussi que ça ne dépend pas de... Ça ne dépend pas de la masse, donc. Ça, c'est la physique. Allez, on ne va pas faire jusqu'au... tu avances un petit peu. Je vais mettre... Tu mets tes pieds ensemble. Hein. Je vais proche de tes genoux. T'es sûr?
C'est sûr.
Oui. C'est bon? Donc on peut avoir confiance dans les lois de la physique.
Et avec... de l'histoire.
Et après, avec de plus en plus ces oscillations, on a plus de confiance. Ok, merci. Un autre bénévole peut-être? Ok, merci beaucoup. C'est comme ça avec la confiance. Donc, revenons au sérieux, là, maintenant. Donc, vous avez vu, ce n'est pas facile d'avoir confiance, mais l'expérience, avec le temps, la confiance est fortifiée. Avec chaque oscillation, la confiance est fortifiée. J'ai oublié, là... Même là, un petit dessin. Donc nous allons revenir à la confiance et la foi dans la Bible. Un texte exemplaire qui nous enseigne sur la foi et la confiance est le psaume 23. Ce psaume commence avec les paroles célèbres « L'Éternel est mon berger ». Dans certaines versions, on trouve aussi « Le Seigneur est mon berger ». Le mot qui est traduit ici avec « éternel » ou « seigneur » est dans l'hébreu du texte original « Yahvé ». Yahvé, c'est le nom qui Dieu s'est donné lui-même. Pour beaucoup, le nom de Dieu reste toujours un mystère. Souvent on explique que le nom Yahvé vient du verbe « être » en hébreu. Ce que donne la traduction « je suis ». Pour le nom de Dieu, où je suis, qui je suis. Mais cette signification reste obscure. Une tradition me plaît beaucoup, la tradition du théologien juif Martin Buber, qui est un expert renommé de l'hébreu biblique. Il traduit le nom de Dieu Yahvé comme suit. Je suis là pour toi. Cette traduction montre formidablement comment Dieu veut entrer en relation avec nous. Et le premier verset du psaume 23, on peut le comprendre aussi comme « Je suis là pour toi et je suis ton berger ». Notre Dieu est là pour nous, il veut entrer en relation avec nous. Nous pouvons avoir confiance en lui. La suite est en même temps formidable et problématique. Je ne manquerai de rien. Une promesse grandiose de Dieu. Pourtant, en même temps, nous connaissons l'expérience que dans la réalité de la vie, il y a parfois le manque, les difficultés, les échecs. Mais aussi, dans ces situations, Dieu nous invite d'avoir la confiance, avoir la foi, car il promet « Je suis là pour toi. Rien ne te manquera. » Les promesses de Dieu continuent dans les deux versets suivants avec deux images alternées. Dieu prend soin de nous. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts et il me redonne des forces. L'autre image est Dieu nous conduit. Il me dirige près d'une eau paisible et il me conduit dans les sentiers de la justice. Et pourquoi Dieu fait cela? À cause de son nom. Son nom qui signifie « Je suis là pour toi ». Dieu n'arrête pas de nous dire « Je suis là pour toi, aie confiance en moi, je prends soin de toi et je te conduis. Dans le verset 4, un autre aspect apparaît, la réalité du mal. Même quand je marche dans la vallée sombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Dieu sait, il y a le mal dans nos vies, les vallées sombres à traverser. Dieu ne nous enlève pas le mal. Le psalmiste connaît le nom de Dieu car il confirme « Tu es avec moi ». Et il sait que Dieu nous promet sa protection. Ta conduite et ton appui, voilà ce que me réconforte. Nous n'avons rien à craindre. Avec le verset 5, l'image change. Ce n'est plus l'image du berger, mais l'image de Noé qui nous invite à sa table. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Dans l'Ancien Orient, une invitation à la maison, à table, incluait aussi la protection contre les ennemis dehors. Quand Dieu dresse une table pour nous, il ne chasse pas les ennemis, mais il nous protège, car il est avec nous. Dieu nous promet sa protection. Quand Dieu nous invite à sa table, est-ce que nous regardons toujours plein d'angoisse vers la porte, parce que derrière la porte, il y a des ennemis? Comme ça, nous ne pouvons pas nous réjouir du repas de fête. Ou alors, est-ce que nous regardons la table, car nous avons confiance en Dieu qui nous promet sa protection? Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, c'est un repas de fête que Dieu nous offre, avec la coupe qui déborde et l'onction avec l'huile, un signe fort d'une grande estime pour les invités honorables. En résumé, les premiers 5 versets du psaume 23 affirment que Dieu veut toujours être là pour nous, pour prendre soin de nous, pour nous conduire et nous protéger. Il nous offre toute sa plénitude dans sa présence. Le souhait d'être dans la présence de Dieu est développé dans le verset suivant. Ce dernier verset, le verset 6, regarde vers l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une expression de l'espérance. Tout d'abord, l'espérance de revenir dans la maison de Yahvé, qui est là pour nous. La maison de Yahvé est premièrement le temple à Jérusalem. Peut-être le psalmiste était un pèlerin qui espérait de revenir dans le temple. Dans d'autres versions de ce psaume, il est traduit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». Dans une vision plus large, ce verset exprime l'immense espérance d'habiter avec Dieu, de rester chez lui qui est là pour nous. Le psaume 23 est une grandiose invitation de Dieu à la foi, à la confiance en lui. Ce psaume nous donne une idée de la sola fide, la foi seule qui porte notre vie. Et aujourd'hui, est-ce que la foi seule, comme c'est exprimé dans le psaume 23, peut être une réponse à la question « Comment je peux réussir ma vie ?» Une réponse aux multiples questions de la vie moderne que nous avons abordées tout à l'heure. Une réponse à nos vies surchargées, à nos vies optimisées, à nos vies basées sur nos performances, une réponse à des multiples défis de notre société de compétition, à la demande de faire encore plus et plus, mais aussi une réponse à nos échecs et à nos détresses. Oui, si nous mettons notre confiance, notre foi en Dieu, qui nous donne la réponse « Je t'aime, je te tiens, je te porte. Tu n'as plus besoin de craindre la vie. Tu n'as plus besoin de gagner la vie par tes efforts. Tu es aimé et tu es porté sans faire quelque chose. » C'est la même réponse pour nous comme pour Martin Luther il y a 500 ans. C'est la même réponse qui est déjà dans le psaume 23. Par son nom, je suis là pour toi. Dieu nous invite à la confiance. Dieu nous promet de prendre soin de nous face à tous ces défis de nos vies. Dieu promet de nous conduire quand nous perdons nos repères dans notre société. Dieu promet de nous protéger contre le mal qui nous attend dehors. Dieu nous invite à habiter avec lui dans sa maison. Il nous donne une nouvelle vision pour notre vie. Jésus nous dit dans Jean 14, verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » C'est l'horizon large de notre espérance, une vision de notre vie qui va plus loin que notre vie terrestre. Dieu met notre vie dans un nouveau contexte plus grand. Plus large, le contexte de l'éternité. Finalement, notre vie ne peut pas échouer ou être prisée car Jésus a préparé notre demeure chez le Père. Et parce que le Père, nous invite à trouver chez lui notre demeure finale. Cela peut nous donner la force de ne pas simplement accepter les réalités de nos vies et de notre société moderne, mais les aborder et les relativiser dans le contexte de l'éternité. Avec notre espérance, au-delà de ce monde, nous pouvons et nous devons changer ce monde. Et même si nous échouons, malgré nos efforts, un nouvel horizon s'ouvre. Je veux terminer avec deux citations. L'écrivain irlandais Oscar Wilde disait « À la fin, tout ira bien. Si tout ne va pas bien, ce n'est pas la fin. » Et Corrie ten Boom, ancienne prisonnière d'un camp de concentration, disait plein de fois « Le meilleur est toujours devant. » Dieu nous dit « Je suis là, ne craignez pas. » Ayez la foi, la confiance et l'espérance. Amen.